De retour à l'émission Au gré du temps, en compagnie aujourd'hui de Gilles Proulx, celui qui a occupé l'antenne pendant près de 46 ans. Ça fait vraiment étonnant quand on dit 46 ans. Comment peut-on faire pour tenir l'antenne aussi longtemps?
C'est drôle ce que vous me dites, parce que j'ai rencontré mon successeur au Journal du Midi, où oui. J'ai fait, je fais le départ à CKVL, qui portait ce titre, 25 ans. Et il me disait, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, « Je ne sais pas comment ça te fait, je ne sais pas si je vais tenir autant de temps, tellement tu avais donc raison, je trouvais que tu étais un animateur excessif, des fois avec tes envolées, et je m'aperçois aussi que le ridicule de la société, des événements qui se succèdent, que finalement tu avais raison, tu te battais comme un Don Quichotte à essayer, et moi-même je suis emparé par cette forme de négativisme, disait-il. » Alors, ça démontre une chose. Alors, moi, j'ai répondu 25 ans. J'ai été condamné à 25 ans ferme. C'est tout. C'est une vraie justice, pas une justice où tu sors au bout de 8 ans.
Est-ce que vous vous trouviez vous-même parfois excessif?
Ça m'arrivait parce que je me disais peut-être. Ça m'est arrivé des fois de me rétracter, d'ailleurs, de m'excuser.
Ça vous a coûté parfois votre emploi, dans certaines circonstances?
Oui,
je pense à l'épisode TQS.
Oui, exactement, ou cette histoire avec la petite fille. J'ai eu beau m'excuser 14 fois, et depuis ce temps-là, on est rendu à 114 fois. Et je m'apercevais que finalement, les journalistes, les médias ne cherchaient qu'à développer un élément spectaculaire. Ils peuvent, on aimerait vous interviewer, et puis ils ne pouvaient pas aller dans d'autres champs d'action quant à ma carrière sans m'amener à cet événement-là, parce que ça aurait pu permettre de faire un bon titre.
Trouvez-vous,
un livre, comme on dit dans notre métier.
Justement, trouvez-vous que la couverture journalistique, ce qu'elle est devenue, à tout le moins dans les médias électroniques, est un peu mièvre?
Il n'y a pas de doute, c'est une aspirine qu'on avale et on ne se souvient pas. Et qui va se souvenir de cette nouvelle qui aurait pu nous marquer avant-hier? Ben, tiens, personne n'en parle. La succession, l'avalanche de nouvelles superficielles et souvent peu intéressantes. On voit que le bagage de la culture des affaires publiques est beaucoup plus passé du côté des affaires publiques, c'est-à-dire politiques, sociales, à le fait divers.
Oui, bien, sous justement le vocable de l'intérêt humain, ce qu'on dit, le human interest,
oui, oui, oui.
Souvent, on oublie d'aborder des questions qui ont un impact social beaucoup plus important. On a beau nous dire, ne croyez-vous pas qu'on peut maintenant avoir accès via Internet à toutes les informations du monde, mais ce n'est pas dans le Chicago Tribune que je saurai ce qui se passe dans mon milieu, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, si on ne m'en parle pas ici. Est-ce que ce n'est pas un peu le constat qu'on peut faire dorénavant de cette information de faits divers en abondance?
Alors, vous me démontrez que les médias, si prestigieux sont-ils, au Québec ou à Montréal, sont devenus des journaux de quartier. Alors, on va parler de telle clinique où une femme s'est faite arracher le nez et puis ça n'a pas fonctionné, où finalement tout ce qui préoccupe les sentiments les plus à rot-sol, tout en oubliant, je pense, des grandes questions qui peuvent nous assaillir incessamment. Regardez, on a choisi Obama. Les attentes étaient tellement fortes à l'égard de cet homme. Tôt ou tard, le ballon se dégonflera. Et il faut en parler. Mais on s'arrête sur la superficialité, le personnage, le livreur.
Est-ce que vous croyez au retour du balancier? Est-ce qu'on pourra éventuellement retrouver une information où on pourra davantage faire appel à la réflexion?
J'en doute beaucoup, hormis qu'il y ait une volonté unanime de ces grands dirigeants pour que l'on change justement la nature des médias pour qu'ils se préoccupent plus. Regardez la régie des ondes de CRTC. Sa règle dit « les médias doivent œuvrer au renforcement des cultures sociales, politiques, économiques et culturelles ». Le culturel est rendu maintenant une culture de bas étage. Et aussi le culturel, on ne s'y arrête pas plus qu'il ne le faut. C'est beaucoup plus la dimension économique. Le patron, quand il rentre, il ne dit pas « tel animateur ou telle animatrice a été bonne hier ». Il dit au chef vendeur « avez-vous vendu plus qu'hier ?» Et c'est ça, on voit ces grands ensembles qui sont devenus que des instruments économique. Et puis, la parlotte ne fait que remplir un temps d'antenne pour occuper une auditoire.
Et pourtant, M. Proulx, la sensibilisation à l'égard des problèmes qui occupent l'ensemble de la planète. Vous avez évoqué plus tôt l'environnement. Il y a une plus grande sensibilité de la part de la population à l'égard de ces questions. Est-ce que ces enjeux-là ne deviendront pas plus importants et forceront les médias à en parler davantage?
Il y a une contradiction là-dedans. C'est vrai que les grands débats... Regardez, on a eu des élections cet automne, par exemple. Avez-vous vu dans le décor les politiciens qui ont pollué le décor visuel de la ville et au bout de 2 ou 3 jours enlevé leur pancarte? Il faut émettre une politique d'amende et à bout de décrocher leur pancarte. Et tous les partis sont encore accrochés et parlaient que d'environnement. C'est vrai qu'il y a des grands enjeux au chapitre de l'environnement, le soin des mers, des montagnes, etc., des lacs, mais on continue encore à acheter en abondance des pneus, des poids, des bicyclettes dans nos rivières individuellement, à vider nos cendriers d'automobiles dans le centre commercial et acheter nos papiers encore sur des pelouses. Et ça, quand on voit aussi la consommation, que ce soit McDonald's ou autre, c'est pour ça que c'est la génération nouvelle qui a consommé ce fast-food et qui n'est pas plus sensibilisé qu'il faut, même si ces jeunes sortent de l'école, on ne leur a pas dit.
Ben, écoutez, on devait parler de voyage pour amorcer cette deuxième demi-heure, mais on est vraiment dans une dynamique qui nous amène quand même à parler de la Terre, de l'exploration de la Terre. Je vous présente cette chanson de Georges Brassens, Terre.
Quel beau choix.
Depuis des mois, Christophe Colomb voguait sur la mer immense, interrogeant les horizons, les vents, les 4 saisons. Les matelots, pauvres garçons, disaient « Nous n'avons pas de chance ». Quand un beau soir, en haut du pont, on entendit Colomb dire « Terre, terre, oui c'est toi, terre, terre, je te vois, terre, terre, viens à moi, oui terre, je suis à toi, terre, terre, oui c'est toi ».
À l'instar de Georges Brassens qui nous disait qu'il faudrait peut-être découvrir la Terre comme l'a fait Christophe Colomb, aujourd'hui on redécouvre un peu les valeurs qui ont animé ce grand animateur de radio, Gilles Proulx, qui est avec nous. Les valeurs d'intégrité, d'honnêteté, malgré le personnage dont on parlait précédemment, ont toujours quand même rejailli de vos animations. On vous sent être intègre, on vous sent honnête.
J'espère, je suis pas infaillible, mais quand même, j'ai toujours été animé d'un grand sentiment de fierté. Et à la fierté s'associe automatiquement l'honnêteté. On ne peut pas vendre avec fierté tout ce dont, toutes ces choses en lesquelles on croit beaucoup, et tout en étant en même temps manipulateur ou malhonnête, c'est pas vrai, ça paraîtrait. Soit dans le ton de la voix ou dans le visage du gars ou de la fille, par exemple à l'écran de télévision, on ne peut pas mentir.
Quelles sont les valeurs qui vous ont vraiment animé tout au long de ces années? S'il y en avait quelques-unes qui, ou une particulièrement, qui, pour vous, est la valeur primordiale?
La valeur des valeurs, ça a été au cours de ce long voyage, de 46 ans ou 25 au journal. Des occasions, c'est époustouflant, c'est dur. La routine tente de nous atteindre, on a le goût de lâcher, on recommence. Mais on est toujours sauvé par des événements fort intéressants. Vous parliez, par exemple, dans la troisième heure, j'avais des entrevues décontractées. Bon, mais c'était une occasion de connaître, de plonger dans l'âme d'une personne et faire ressortir ses beautés, ses éléments. Oui. Et en même temps, ses rencontres avec des gens. La radio m'a quand même permis de me donner un mode de vie fort enviable. Je ne dis pas que j'ai fait un salaire de joueur de hockey, mais j'étais quand même dans cette minorité de quoi, 2 ou 3 % et aussi, avec toute l'insécurité que ça représente, il faut le dire aux gens aussi, et aussi le fait d'avoir rencontré, côtoyé, le fait d'avoir fait le tour du monde avec ce métier. Je me suis servi souvent du micro pour trouver une raison pour aller en reportage à tel endroit ou à tel autre, et tous mes voyages, en tout cas, ont pu être ensemencé sur les ondes de la télé ou de la radio par la suite, ce qui est très enrichissant. Et ça, ça a été un peu le fil conducteur qui a maintenu, en tout cas, ma vie en ondes.
Avant même de parler des voyages, restons encore quelques minutes sur la question de la radio. Bon, on a parlé de Québec, le marché du « trash radio », si vous me permettez l'expression, radio poubelle. Montréal n'a pas été victime autant que les Québec, parce que ça existe
oui.
encore à Québec.
Oui, épouvantable.
Est-ce que vous trouvez cependant qu'il y a encore de la place pour une radio de... On a parlé de réflexion, mais sans nécessairement tomber dans une radio élitiste, pour une radio qui laisse place au débat des idées, que ce soit à Montréal ou à Québec? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de radio qui permette cette fenêtre.
Ça me ramène à la régie des ondes CRTC, dont je parlais tout à l'heure, qui a complètement abdiqué avec des décisions politiques, bien sûr, et dans un contexte de libre-échange, de circulation des idées, on permet n'importe quoi. Mais pourquoi être postulant pour avoir une licence d'un poste de radio ou de télé et que la responsable du CRTC va dire « Oui, mais dans quelle langue ?» En français, bien sûr, vous voulez une licence française. Et une fois que la licence est obtenue, le français n'existe plus. C'est la vulgarité, le joie, la scatologie et les sacres. Pourquoi ? Tout ça au nom de la libre circulation. Alors, il manque une autorité pour mettre, justement, une largeur de couloir.
Vous, la présidence du CRTC,
Je vous jure que je travaillerai beaucoup sur la radio et nombre de diffuseurs deviendraient frileux, j'en suis persuadé, si on me donnait ces pouvoirs. Pourquoi m'avez-vous demandé un permis pour faire de la radio en français? Vos gens ne sont même pas capables de parler français. Vous allez me trouver du personnel. La superficialité des jeunes recherchistes qui bookent des numéros de téléphone, mais n'ont pas lu en profondeur le sujet dont on traite parce que ça ne les intéresse pas, ça démontre encore une fois tout l'aspect superficiel de ce média par rapport à il y a quelques années. On me dit, oui, mais on serait interventionniste, on porterait atteinte à la liberté. Si je vais sur une plage, et pourtant il est écrit dessus, au-delà de 100 mètres, nous vous interdisons d'aller nager là. Pourquoi? Parce qu'il y a des requins. Eh bien, je pense que celui qui va au-delà de ça s'expose. Alors, ça devrait être la même chose. Il faut qu'il y ait un couloir, une largeur de corridor pour redresser cette radio. Et ça me fait mal au cœur, vous citiez Québec, qui est devenu tellement vulgaire et généralisé en termes de toutes les stations, à l'exception peut-être de Radio-Canada. Et pourtant, vous êtes dans la capitale de la francophonie et il n'y a pas un petit animateur à gomme qui sait... Il connaît les sources de cette ville.
Peut-être est-ce que Québec est une ville de pouvoir et dans les zones de pouvoir, chacun essaie de tirer profit de son propre intérêt.
Ben, on a trouvé le pouvoir en ayant une sympathie auprès des ronds de cuir, c'est-à-dire des fonctionnaires, et ainsi en tapant sur le gouvernement ce qu'il peut essayer de faire, on s'attire une certaine sympathie, par conséquent des cotes.
Le Québec, pour vous, c'est une valeur, c'est une belle valeur, le Québec.
C'est une belle valeur, mais j'ai tellement peur qu'on se louisianise. Et malheureusement, je suis un prophète de malheur. 8 fois sur 10, j'y réussis, ça me blesse. Et quand j'entends ce chanteur que vous voulez me présenter, Claude Gauthier, que j'aime beaucoup, il ne peut pas mieux décrire le Québec qui cherchait par sa volonté un visage amélioré.
J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui, sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie. Et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier, de poissons, je suis de roches.
De tous les pays que vous avez visités, c'est presque cliché de demander quel est le plus beau, mais est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où vous avez vraiment pu percevoir que la liberté s'exerçait dans tout le sens de ce que signifie ce mot?
Ben, la liberté dans laquelle on surnage, c'est le cas ici, par exemple. Tous les pays ont leur liberté, mais avec des règles et des lois, à l'intérieur de laquelle, si certains cherchent des verrues ou des bébites, vont trouver que le pays n'est pas l'idéal. Il n'y en a pas de pays idéal. Mais quand on a une honnêteté, on sait les règlements d'un pays, d'une institution, et qu'on s'y soumet, je ne vois pas pourquoi est-ce que je serais malheureux. Moi, je ne vous mens pas, je pourrais être dans un pays où, admettons qu'on me transférerait pour mon travail dans un pays où il y a un régime dirigiste assez hautain ou sévère, je ne me sentirais pas plus mal à l'aise pour autant, en autant que je respecte les règles, je paye mes impôts, je respecte les lois ou les règles de circulation, je ne provoque pas le pouvoir, je trouverai mon bonheur. On fait son propre bonheur. C'est sûr que je ne veux pas d'une dictature, mais même sous un régime de bottes, je pense qu'on peut, en reculant aux exemples nazis ou de Pol Pot, là, mais on peut retrouver son bonheur si on le fait soi-même.
Je vais reposer ma question différemment et je vais même partir d'une citation de Napoléon, que vous aimez bien d'ailleurs, qui disait « Je redoute 3 journaux plus que 100 000 baïonnettes ». Est-ce qu'il y a un pays où vous avez vraiment senti qu'il y avait un plus grand respect à l'égard du rôle du citoyen?
Bon, il y a sûrement l'Angleterre, qui n'est pas parfaite, puisque lorsqu'on est là à Londres, on assiste régulièrement à des manifestations. Les rouspéteux sont là quand même.
L'expression de la parole, c'est important.
Oui, mais ça change quoi? Comme j'ai déjà dit une fois à la blague à un premier ministre, Robert Bourassa, que j'aimais bien, savez-vous quelle différence il y a entre une dictature et une sociale médiocratie dans laquelle nous sommes, M. Bourassa? Et je faisais exprès pour dire une sociale médiocratie, parce qu'elle pourrait être une sociale démocratie. Et il me dit non. Ben, j'ai dit, dans une dictature, chez Castro, c'est « ferme ta gueule, c'est moi qui mène ». Et dans une sociale médiocratie dans laquelle nous sommes, c'est « gueule tant que tu veux, c'est moi qui mène ». Alors, ça ne change pas grand-chose, comme vous voyez. Sauf que vous avez le droit de rouspéter. C'est sûr que dans un
pays... vous l'avez fait vraiment beaucoup.
Oui, je me suis servi de cette liberté. Oui, je suis allé au Mexique, j'ai animé le journal du Midi. Vous auriez dû voir le nombre de journalistes qui étaient dans un poste, dans une roue de tour, qui me regardaient autour de la vitre. Ils n'en revenaient pas de cette marge de liberté au Maroc, pareil, où j'ai donné des cours sur les techniques d'entrevue. Ils n'en revenaient pas, les jeunes. Mais ça ne change pas grand-chose par rapport à votre régime, à vous.
Vous parliez de cours que vous avez donnés. Vous avez formé des jeunes parce que vous avez été longtemps enseignant à l'Université de Montréal en communication.
Oui.
Qu'est-ce que vous retenez de ces années?
Bon, une belle expérience avec cette jeunesse qui était remplie de volonté. Et moi, j'étais là dans les années 70-80, là, jusqu'à 91. Et à l'époque, il y avait cet homme que j'admirais beaucoup, Pierre Nadeau, qui était le grand nom chez les grands reporters. Et tous ces jeunes désiraient devenir des Pierre Nadeau. Je croyais des Pierre Nadeau en puissance. Il y en a quelques-uns là-dedans qui, effectivement, ont réussi à percer, se trouver un poste à radio, à la télé, privée ou Radio-Canada. Mais ça me décourageait de voir toutes ces classes, 25 ou 30 élèves, où tous s'imaginaient encore une fois devenir les grandes vedettes qui œuvreraient à transformer les mentalités, quand on sait que la compétition étant là, beaucoup d'appelés, peu d'élus.
Une petite pause musicale. Vous aimez Mozart?
Ah, encore là, vous m'amenez à Vienne, hein?
Oui, bien, un extrait des Noces de Figaro de Mozart, un air de Chérubin, « Voi che sapete che cosa è amor », vous connaissez ce qu'est l'amour. C'est le mariage de Suzanne et Figaro, Chérubin, page de la comtesse tombe sans cesse amoureux. Suzanne demande à Chérubin de chanter une romance de sa composition, et c'est une romance conventionnelle, non pas à la Gilles Proulx, à la Chérubin. Et il chante l'air sans rapport avec le contexte, et pourtant ce n'est pas mièvre comme peut l'être parfois l'information. Vous allez voir, c'est un texte raffiné et un air tellement doucereux à l'oreille. On l'écoute ici interprété par l'Orchestre symphonique de Berlin sous la direction de Daniel Barenboim, et c'est la mezzo-soprano américaine Jennifer Lamour qui interprète cet air.
On était à Berlin, vous savez que j'ai vu ici Herbert von Karajan, qui était le grand nom parmi les chefs avec sa philharmonie, justement à Berlin. Quelle expérience! Et c'est beau que vous nous ameniez comme ça à Vienne, cette ville qui est si belle. Lorsque vous vous promenez dans les centres commerciaux, vous voyez des boutiques, lesquelles font de boutiques, ne sortent pas du Downy Rock'n'Roll ou du disco, comme au Québec, mais des œuvres de Mozart, de Beethoven, etc. Alors, voyez-vous, dans un pays moderne, on peut encore, grâce à l'éducation.
Est-ce que c'est cela qui vous anime quand vous voyagez, c'est-à-dire la redécouverte, finalement, d'un passé glorieux, encore bien présent, et dont ces populations demeurent très fières?
C'est dû sans doute à des structures familiales plus solides qu'ici et d'autre part à un système d'éducation. Je croirais. Le lycée, prenons la langue. Comment m'expliquer qu'un Algérien, un Marocain, un Tunisien parle mieux français qu'un Québécois dont la langue maternelle est le français? Et dans le cas des Maghrébins, la langue maternelle n'est pas le français mais l'arabe, si ce n'est pas dû à la présence d'un système scolaire qui est celui du lycée qui est plus rigoureux.
Qu'est-ce qui a amené cette déroute selon vous?
L'américanisation, la facilité, c'est sort de l'incarnation qui disait, dans le temps de la colonie, le problème existait déjà. On peut faire un sauvage avec un Français, mais on ne fait pas un Français avec un sauvage. Alors, nous avons tendance à céder aisément aux oreilles étrangères ou encore aux sifflements étrangers et on répond à ces appels. Fort facile.
Est-ce parce qu'on ne lit pas suffisamment? C'est Victor Hugo qui disait « Lire, c'est voyager. Voyager, c'est lire. »
Ah, c'est bien dit. Et vous avez bien raison. Vous allez en Europe, vous regardez dans un autobus, que ce soit à Londres, à Paris ou à Berlin, 70% des gens ont un livre, un journal. Vous regardez ici, s'il y a 10% qui lisent, eh bien, c'est déjà beau. C'est triste, mais c'est ça.
Gilles Proulx, au cours des prochaines années, maintenant qu'il n'est plus aussi actif, ne demeure pas inactif pour autant, des voyages en vue?
Des voyages, oui, j'en ai encore quelques-uns. Je travaille pour la télévision. On m'a demandé, imaginez-vous, un enregistrement de 40 pays. Ça témoigne d'une certaine confiance dans cette émission.
Oui.
Et j'ai encore au programme l'Inde, où je dois retourner, Saint-Domingue. Tout le monde, les Québécois, vont beaucoup en République dominicaine, mais oublient cette capitale qui est intimement liée à la naissance du colonialisme, la présence de Christophe Colomb, tout ce mobilier colonial qui est fort intéressant.
Quel est le coin de terre où vous n'êtes pas encore allé et que vous aimeriez vraiment visiter?
J'ai toujours dans mes cartons Tahiti, je vais aller chez Gauguin, Jacques Brel ou Marlon Brando.
Aux Marquises,
voilà.
Oui. Ça, c'est un rêve, probablement, parce que les Marquises sont à 1000 kilomètres de tout lieu habité.
Et les avions m'épuisent. Oui. Alors, je me dis toujours, quand j'aurai du rhumatisme, peut-être je vais prendre un bateau quelque part.
Monsieur Proulx, pour terminer cette émission, je vous réserve une petite surprise. C'est une belle chanson d'un groupe qui n'est peut-être pas très connu, un groupe québécois qui s'appelle Shakida.
Oui.
Le compositeur et l'interprète principal de ce groupe s'appelle André Varin. La chanson s'appelle « L'hymne à la vie ». C'est un peu, oublions la conclusion parce qu'il part à la toute fin, mais quand il fait le bilan de sa vie, vous allez voir, c'est vraiment un bilan heureux et on vous l'offre sur un plateau musical.
Un beau cadeau, merci beaucoup.
D'un œil tranquille, je vois s'écouler mes jours, heureux de suivre leur cours. Printemps de la vie orné de quelques fleurs, noyé souvent d'ennui et de pleurs. La plus belle jeunesse, ah, c'est mon secret, je m'en délave du moindre regret. Le brillant matin de sa beauté charmante cache derrière une tourmente.
Voilà, il nous reste à peine quelques minutes. Vous disiez entreprendre peut-être le plus beau voyage, vous aussi, c'est-à-dire celui de la découverte encore, parce que vous êtes curieux de nature.
Heureusement, c'est ce qui tient en vie, et puis la curiosité est un signe d'intelligence.
Le bonheur pour vous, en quelques mots, ce serait quoi?
Le bonheur, c'est d'apprécier tous les jours ces journées qui se présentent devant moi, et c'est une forme de prière. Je dis, mon Dieu, il m'en reste une de moins. Mais je l'apprécie, qu'elle soit grise, ensoleillée, pluvieuse ou neigeuse, c'est d'apprécier la vie.
Est-ce que quelqu'un d'aussi extraverti que vous, du moins c'est ce que nous avons connu de vous par la magie des ondes, se réserve un espace d'intériorité?
Ah oui, bien sûr, je suis un méditatif. J'entre dans des églises, non seulement pour admirer son architecture, mais de voir à me confier parce que c'est un endroit qui s'y prête bien. Ça fait du bien, d'ailleurs. Alors, dans ce sens, je fais des prières. Mon Dieu, que la journée est belle. C'est une forme de prière. L'amour de la nature, le combat pour protéger ce que la création nous a donné, c'est une forme de prière également.
Et si je vous donnais votre minute de gloire, s'il y avait une chose que vous auriez dont vous auriez la possibilité de modifier ou de transformer, de changer, quelle serait-elle?
Ah, ce serait tout simplement d'avoir un Québec collectivement plus fier, plus français.
Bien, Monsieur Proulx, d'abord, merci pour toutes ces années que vous nous avez données sur les ondes, à travers différentes stations. Mais votre présence, vous faites un peu partie de notre famille parce que vous avez toujours été là, bien présent. D'ailleurs, on vous regrette déjà depuis que vous n'êtes plus en ondes. Heureusement que vous êtes avec nous aujourd'hui. Merci pour toutes ces années. Merci, bien sûr, d'avoir accepté notre invitation.
Venant d'un confrère et qui a œuvré aussi sur la même patinoire que moi, c'est très touchant de se faire dire ça. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance à votre vaillante petite radio.
Bien, merci beaucoup. C'était l'émission Au gré du temps avec nous aujourd'hui. Monsieur Gilles Proulx, cette émission a été réalisée sous la supervision technique d'Alain Primo. C'est Armand Dubois qui vous souhaite de passer une excellente semaine et de nous revenir la semaine prochaine. Merci, au revoir.